Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à vous, vous êtes les bienvenus sur RTL et dans La curiosité est un vilain défaut. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Sidonie, salut à vous les curieux. La curiosité est un vilain défaut, c'est une nouvelle émission qui a démarré en septembre sur RTL. Tous les jours de 20h à 22h, voilà, la découverte de la science, de l'histoire, des aventuriers. Et là, encore plein d'histoires au programme. Par exemple, le blé qui peut en rapporter du blé. Saviez-vous que c'est notre pétrole doré qui nous l'achète? Comment on s'adapte à la demande de plus en plus forte? On saura tout avec le Parisien Magazine.
Et 3800 pilotes japonais qui s'écrasent sur des navires américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les kamikazes, souvent présentés comme des héros, des as de l'aviation par la propagande japonaise. Eh bien, dans la curiosité, vous découvrirez une toute autre réalité. Et maintenant, Lou, y es-tu ?
La curiosité est un vilain défaut.
Les loups sont partout, ils rôdent autour du camp.
RTL.
J'aimerais capturer un louveteau pour pouvoir l'étudier.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il est de retour en France depuis une vingtaine d'années et dans nos salles de cinéma demain avec la sortie du film de Jean-Jacques Hano. Le loup est au cœur de l'actualité, mais est-il dans nos cœurs? Pas si sûr. Eh bien, je vous propose de faire connaissance avec l'animal. Bonsoir Pierre Rigaud. C'est pas vous l'animal.
Bonsoir, merci. Bonsoir Pierre Rigaud.
Parce
bienvenue.
Que vous êtes naturaliste.
Vous pouvez vérifier sur RTL.fr. Ce n'est pas un loup-garou, Pierre Rigaud, c'est un homme.
Vous êtes naturaliste et aussi vice-président de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. En gros, votre job, c'est d'observer les loups et de les protéger quelque part?
Alors, de les observer indirectement, parce que je vous cache pas qu'eux-mêmes se cachent, donc en fait, on les voit très 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 peu. Mais enfin, d'essayer de comprendre comment ils vivent et d'essayer de les protéger, ouais.
Des loups, on dirait qu'il en surgit tous les jours. La Meurthe-et-Moselle, qui n'en avait pas vu depuis un siècle, pense qu'il est de retour car il aurait croqué deux brebis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les loups nous attaquent?
Non, les loups ne nous attaquent pas du tout. Les loups sont en train de revenir, c'est vrai, ils étaient autrefois communs, ils avaient disparu parce qu'ils avaient été éradiqués par l'homme en France et dans d'autres pays en Europe. Puis peu à peu, ils reviennent. Donc quand ils surgissent à un endroit où on les attendait pas, souvent ils se font remarquer en commettant ce genre de petits méfaits, quoi, en croquant une brebis. Et souvent, ça fait qu'ils sont plutôt très mal accueillis.
Et les vieilles peurs ressurgissent, on aura l'occasion d'en reparler. Vous vivez dans quelle région?
Dans le sud-est de la France, dans les Préalpes, dans le Gap-Ancé, près de Gap.
Et c'est un endroit où il y a beaucoup de loups?
Il n'y a pas beaucoup de loups, mais ça fait partie des endroits où il y a des loups en France. Ouais. Ils sont surtout présents là-bas, dans le sud-est. Alors, quand on dit il y a beaucoup de loups, ça veut dire qu'il y a quelques meutes de loups qui, chacune, occupent un espace très, très grand. Mais ils sont bien présents, ouais, effectivement, là-bas.
On sait combien il y en a en France, aujourd'hui?
Il y en a à peu près 300, c'est l'estimation officielle. 300, 350, principalement dans le sud-est de la France, et puis quelques individus un petit peu répartis ailleurs, mais ils sont surtout présents dans l'arc alpin encore.
D'accord. Et dans le monde?
Dans le monde, ça se chiffre en dizaines, voire quelques petites centaines de milliers.
C'est-à-dire que c'est peu par rapport à la quantité de loups qu'il y a pu y avoir à une époque?
C'est très très peu, ouais. Le loup, c'est un des mammifères qui avait la plus grande aire de répartition. C'était un des mammifères les plus répandus dans le monde. Il était présent dans à peu près tout l'hémisphère nord, aux États-Unis, au Canada, en Alaska, jusqu'au Groenland, Scandinavie, Europe, Asie, jusqu'au Japon, même sur la péninsule arabique et même aussi en Afrique du Nord, on l'a découvert assez récemment. Donc il occupait tous ces territoires, ils étaient très très nombreux, c'était un animal extrêmement commun. Maintenant il est beaucoup moins commun, il est encore bien largement réparti, mais il est évidemment beaucoup moins abondant qu'autrefois.
Parce qu'on lui a fait la peau ?
On lui a fait la peau. Il y a eu une guerre sans merci contre le loup qui a été faite depuis très longtemps. Déjà dès l'Antiquité, au 6e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, il y avait des primes qui étaient données aux gens pour tuer des loups. Donc ça remonte pas hier. C'est vrai qu'il y a une guerre vraiment acharnée contre les loups en Europe, aux États-Unis aussi. Par exemple, en Grande-Bretagne, il y avait on a carrément brûlé des forêts entières pour faire disparaître les loups. En Scandinavie, on mobilisait des centaines de gens pour faire des battues pour tuer des loups. Il y a certains peuples qui étaient moins acharnés contre les loups. Les Amérindiens en Amérique du Nord, ils tuaient des loups, certes, mais il n'y avait pas du tout cette volonté d'extermination. Puis quand les colons sont arrivés, ils ont amené le bétail, ils ont amené des moutons. Les loups se sont attaqués aux moutons. Ça n'a pas plu du tout aux colons et ils ont mené une guerre systématique contre les loups.
Et ben c'est justement le thème du nouveau film de Jean-Jacques Hano, Le Dernier Loup, un film RTL qui sera demain sur vos grands écrans. L'histoire se déroule en Mongolie à la fin des années 60. où un vaste plan loup est lancé.
J'ai également reçu de la hiérarchie cette directive. Pour éliminer les louveteaux dans les tanières. Tuer les louveteaux, ça permettra d'en réduire le nombre.
Si on tue leurs petits, ils vont être furieux et ils vont se venger.
Ceci est un ordre.
Donc là, on est en Mongolie, un plan anti-loup est lancé dans le film de Jean-Jacques Hano qui sort demain. En France, vous nous disiez, Pierre Rigaud, qu'il y a 300 loups aujourd'hui. Ils étaient combien à la fin du XVIIIe siècle ?
Ils étaient à peu près 20 fois plus nombreux. Il y en avait peut-être entre 5000 et 7000. Ils étaient répartis dans tout le pays. Et puis à partir de la fin du XVIIIe, il y a eu cette guerre contre les loups s'est intensifiée par deux phénomènes principalement. La Révolution française, elle a généralisé le droit de chasse. Donc autrefois, enfin avant, la chasse était réservée à une élite. Puis finalement, comme tout le monde a eu le droit de chasser, plus de chasseurs, plus de chasse aux loups, tout simplement. Mmh. En plus, les fusils à cette époque se sont perfectionnés, donc ça, on a pu tuer des loups de très loin. Ce qui fait qu'entre la fin du 18e et le début du 20e siècle, on est passé d'une situation où les loups étaient communs, il y en avait donc 7000 à peu près, à zéro, tout simplement.
Il y a une disparition, Sidonie, à ce moment-là. Il y a un moment où on dit il n'y a plus aucun loup en France, c'est ça ?
C'est ça.
En quelle année ? Ou à quelle époque,
1925-1930. C'est les dernières populations de loups. C'était en Charente, Haute-Vienne, par là-bas, dans le centre-ouest de la France.
Mais ils sont chassés par les hommes ?
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a un jour où un homme a tué le dernier loup. On a pu dire ça aussi précisément ?
Les historiens qui ont. Il y a une thèse très documentée de François de Beaufort qui vraiment a étudié toutes les archives disponibles et qui a montré qu'effectivement. Les mentions de loups, les mentions historiques de loups dans les archives, dans les documents, c'est assez bien documenté. Et on n'a pas le dernier loup tué, mais on a le dernier endroit où la dernière population de loups, le dernier petit groupe de loups était identifié.
Mmh. Alors les loups disparaissent dans les années 30 en France. Quand, comment et où est-ce qu'il réapparaît le loup dans notre pays ?
Alors dans notre pays, il réapparaît dans le sud-est pour une raison toute simple, c'est que nos voisins espagnols et surtout italiens, ils ont certes tué beaucoup de loups, mais pas autant que nous. Donc ils ont conservé une petite population. Et dans les années 70, en Italie, il restait à peu près une centaine de loups. Et là, les Italiens se sont dit, on va protéger le loup. Donc contrairement à ce qui était fait en France, puisqu'il n'y avait plus aucun loup en France. Donc comme il restait une petite population de loups en Italie, dans les années 70, elle a été protégée. Donc la population a pu se refaire une santé petit à petit. Les loups qui étaient surtout présents dans le centre du pays, de l'Italie, peu à peu ont regagné le nord de l'Italie, peu à peu ont atteint les Alpes. Et au tout début des années 90, donc 20 ans après, deux premiers loups ont été officiellement observé dans le département des Alpes-Maritimes, à quelques kilomètres de la frontière italienne, parce qu'évidemment, les loups, la frontière, ils s'en fichent un petit peu. En même temps, la même année, il y a eu un loup qui a été tué dans les Hautes-Alpes, donc un petit peu plus loin de la frontière côté français. C'était l'accueil qui lui a été réservé, pas très chaleureux. Et c'est la date officielle du retour du loup en France, donc après 60 ans d'absence.
Donc on est passé des années 90 à aujourd'hui de 2 à 300 loups. Ça, c'est une même famille qui se reproduit, qui se multiplie ?
C'est une même population. En fait, les loups qui sont présents en France, comme ils sont issus des loups italiens, c'est une même population qui est connectée, qui forme un tout en fait. Et peu à peu, la dispersion, la recolonisation du loup, ça se fait par certains individus qui peuvent fonder des familles, donc c'est pas issu de seulement deux loups, c'est pas Adam et Ève qui sont c'est en fait la population de loups italienne qui peu à peu a fait naître des loups pionniers qui peu à peu se sont reproduits en France.
Ouais, Pierre Rigaud, vous êtes naturaliste, est-ce qu'il y a eu une réintroduction ou des naturalistes ont eu cette idée de réintroduction comme pour les ours ? C'est-à-dire de prendre un couple de loups et de les réintroduire en France, en fait.
Alors ça, c'est un mythe qui est très très tenace, donc vous faites bien de le rappeler. En France, il n'y a pas eu de réintroduction de loups.
On aurait pu le faire, il n'y avait pas la volonté politique de le faire ?
On aurait pu le faire, par exemple, aux États-Unis, il y a eu dans le parc de Yellowstone des loups qui ont été réintroduits parce qu'ils avaient été tous éliminés. Mais en France, il n'y a pas eu besoin parce qu'il est revenu tout seul grâce au fait que nos voisins italiens en ont gardé un peu. Donc, j'insiste bien, il n'y a pas eu de loup qui a été réintroduit intentionnellement. Ils sont revenus tout seuls.
Alors le loup fait peur, c'est le méchant des contes d'enfants, c'est aussi le méchant dans la nature. Mais quel type de prédateur est-il et dans quelles conditions est-il dangereux ? Toutes les réponses, c'est dans la curiosité sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Curiosité est un vilain défaut.
Le problème avec les loups, c'est qu'on ne peut pas les reconnaître à leur couleur, car au sein d'une même meute, on trouve différents pelages. Pourtant, il en existe environ 30 sous-espèces. Cœur de loup. Certains ne sont pas plus gros qu'un labrador, alors que d'autres sont aussi hauts qu'un enfant de 12 ans. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils étaient deux en France dans les années 90. Aujourd'hui, ils sont 300, les loups. Ils continuent d'inquiéter, de fasciner. Est-ce qu'ils sont dangereux pour l'homme? Est-ce qu'ils déciment vraiment le bétail en France? On discerne le vrai du faux avec Pierre Rigaud, spécialiste des loups et naturaliste. Alors, l'homme a peur du loup depuis toujours. C'est une peur ancestrale.
C'est une peur qui est un peu ancestrale, qui peut se comprendre dans les temps très lointains où les humains étaient beaucoup moins nombreux, les loups étaient beaucoup plus nombreux, les humains vivaient dans un environnement qui était plus hostile pour eux, donc peut-être que le loup représentait vraiment potentiellement un danger, au moins un concurrent, c'était peut-être effrayant. C'est plus le cas du tout maintenant, évidemment. Mais en fait, il y a une détestation du loup partout dans le monde qui est arrivée à partir du moment où les humains ont commencé à élever du bétail, enlever des moutons parce que les loups se sont intéressés au bétail. Donc c'est surtout ce problème-là qui a été à chaque fois source de conflit.
Souvent dans les contes ou même dans les séries, j'en suis une qui s'appelle Game of Thrones, où on voit des meutes de loups avec de la bave, des dents énormes qui sautent sur des promeneurs qui sont tranquilles dans la forêt. Donc à l'idée de se balader dans la forêt comme ça aussi peut-être, mais on peut vraiment se faire attaquer par une meute de loups comme ça?
Non. Il y a eu historiquement des loups qui ont attaqué des humains, il y a eu des gens qui ont été tués par des loups, c'est assez documenté par le passé, dans un contexte très très différent.
C'est-à-dire
C'est-à-dire où par exemple on envoyait des enfants en bas âge pour garder des troupeaux de moutons dans les landes tout seuls, où les loups étaient plus nombreux. Il y a eu aussi la rage, aujourd'hui ça n'existe plus, il n'y a tout simplement pas d'attaque de loups sur l'homme, c'est quelque chose qui est absolument rarissime dans le monde. En France, depuis 20 ans que le loup est revenu, il n'y a jamais eu ne serait-ce qu'un loup qui aurait intimidé un être humain ou qui aurait attaqué un être humain.
Parce qu'il a peur ?
Il a peur. Le loup a peur de l'homme et les loups fuient l'homme. Et c'est pour ça qu'on les voit quasiment jamais en fait. Alors quand on sait que par exemple dans le même temps, chaque année en France, il y a 30 personnes qui sont tuées par des chiens, s'il y a un canidé dont il faut se méfier, ça pourrait être certains chiens. Bon, pour autant, on ne va pas se mettre à éradiquer les chiens, ça serait complètement absurde. Mais enfin, les loups, c'est pareil, ça reste un animal sauvage dont on ne peut pas forcément prévoir tous les comportements. Mais si on regarde les faits, aujourd'hui, il n'y a pas d'attaque de loups sur l'homme. Donc vous pouvez vous promener en forêt, essayer d'aller voir les loups. En général, vous ne les verrez pas parce qu'ils se cachent et qu'ils fuient. Vous pourrez éventuellement les entendre, voir leurs traces. Mais vous pouvez y aller sans crainte.
Mais cette peur ancestrale, qui, on a bien compris, Pierre Rigaud, date de l'époque où les loups étaient très nombreux, où les hommes vivaient beaucoup plus dans la nature. Elle s'est transmise de génération en génération. C'est quoi? C'était une tradition orale? C'est devenu l'ennemi à abattre dans l'imaginaire collectif, c'est ça?
C'est devenu l'ennemi à abattre, mais encore une fois, souvent à cause des conflits liés au bétail, aux moutons. Parce que ça peut être compliqué d'élever des animaux sauvages, enfin des animaux domestiques comme le mouton, quand il y a des loups qui s'en prennent facilement au bétail si le bétail n'est pas suffisamment bien gardé. Donc c'est surtout ce fait-là en fait qui historiquement a entraîné cette guerre contre les loups.
Parce que ça c'est une réalité. Quand il y a du bétail, le loup peut être attiré, notamment par les moutons, et ça existe encore aujourd'hui.
Ça existe encore aujourd'hui.
Donc c'est pour ça que certains éleveurs sont pas contents quand ils voient arriver les loups dans leur région. Ça, c'est une réalité
c'est
aussi.
Ça, c'est une réalité, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire en sorte que les loups ne s'en prennent pas au bétail. Donc tout l'enjeu, en fait, c'est de faire en sorte que le pastoralisme, l'élevage des moutons, se fasse d'une façon, disons, adaptée à la présence des grands carnivores. C'est pas toujours simple, hein. Il y a plein de conflits. Ça peut se faire techniquement, ça se fait très bien quand c'est bien mis en œuvre. Donc tout l'enjeu est là en fait, et c'est d'essayer de faire cohabiter une activité humaine comme l'élevage, le pastoralisme, l'élevage en plein air, et puis les moutons. Et puis les loups.
et qu'est-ce qui est mis en place justement pour faciliter cette cohabitation entre ces troupeaux qui sont en toute liberté et puis ces loups qui sont aussi libres?
Alors les loups sont vraiment libres, contrairement aux moutons qui ne devraient pas l'être tant qu'ils le sont parfois. Le pastoralisme, c'est le pâtre, ça veut dire garder, c'est garder les moutons. Donc il y a eu quelques décennies pendant lesquelles on avait plus l'habitude qu'il y ait des loups en France. Donc les moutons étaient laissés un peu vacants. Ils se sont fait croquer quand les loups sont revenus. Donc maintenant, il y a des choses qui sont mises en place qui sont tout simplement réapprendre à garder les moutons. Donc des bergers, tout simplement, des clôtures pour mettre les moutons à l'abri la nuit, des chiens de protection, les fameux patous, les grands chiens blancs qui aboient et qui empêchent les loups de s'en prendre aux moutons. Tout ça, c'est en France subventionné largement par l'État, donc on aide les éleveurs à faire en sorte de se protéger contre les loups.
Et quand un loup croque une brebis, est-ce que l'éleveur est indemnisé ?
Oui, il est indemnisé, bien sûr. Il y a un prix qui est un petit peu supérieur à ce qu'il en a retiré s'il avait vendu la viande de mouton, parce que l'élevage des moutons, c'est quand même ça la finalité. Si on parle de l'élevage, c'est pas un sujet forcément très rigolo, mais c'est vrai que c'est vraiment important d'aborder l'élevage si on aborde le retour du loup, parce que dès qu'on parle de loup, partout, on parle des conflits avec le bétail.
Ben bien sûr, c'est ce qui fait la une des journaux dans les régions où il y a des loups. Mais ça représente combien de bêtes attaquées par an? Il y a combien, je sais pas, de moutons qui ont été tués par des loups l'an dernier? Je sais pas si vous avez le chiffre.
Ouais, il y en a à peu près 9000. Donc, dit comme ça, on se dit 9000 moutons qu'on
a tués. C'est beaucoup.
Voilà.
Alors, ben surtout qu'il y a 300 loups seulement en France.
Alors, là, il faut faire un petit peu de pédagogie. Il faut faire un petit peu de pédagogie. En France, il y a à peu près 7 à 8 millions de moutons d'élevage qui produisent chaque année peut-être 3-4 millions d'agneaux pour l'abattoir, pour la viande. Donc ça, c'est l'élevage ovin en France. Il y a 9000, entre 5000 et 9000 moutons chaque année qui sont tués par des loups. Mais à côté de ça, il y a 500 000 moutons qui meurent d'autres causes, des maladies, des blessures, et qui sont envoyés, non pas à l'abattoir, mais à l'écarissage. Donc dans des usines, pour être brûlé, incinéré, c'est pas très rigolo, mais c'est ça. Donc si on met en parallèle les 9000 moutons tués par des loups et les 500 000 tués par d'autres causes, on se rend bien compte qu'au niveau global, au niveau national, le loup n'a absolument aucun impact sur l'élevage.
Mais quand vous avez en face de vous un éleveur qui ne veut pas entendre ce discours, quels arguments vous essayez de trouver pour le convaincre?
Déjà, je dis pas seulement que le loup n'a pas d'impact au niveau global, et après il faut vous regarder dans le détail, parce qu'évidemment l'éleveur qui est concerné par des attaques de loups sur son troupeau, c'est tout à fait légitime, ça l'embête énormément, il faut pas du tout négliger ça, c'est une réalité aussi. Donc certes, le loup n'a pas d'impact sur la filière ovine en France, c'est une réalité, mais une autre réalité, c'est que très localement, les éleveurs qui sont concernés par ces problèmes de conflit, ça peut être très très embêtant, et le loup, il embête bien beaucoup d'éleveurs, donc on peut comprendre vraiment la gêne de ces éleveurs-là. Donc ce qu'on peut dire aux éleveurs, c'est en fait d'essayer de faire en sorte que le loup ne s'en prenne pas aux moutons et d'essayer de bien garder leur brebis. Et là, il y a plein de techniques qui existent et dont on a des exemples de succès un peu partout quand elles sont très très bien mises en place ces mesures. Donc, ce que je vous parlais des clôtures, des chiens de protection, c'est des choses techniques qui fonctionnent quand elles sont mises en place avec motivation.
Dans un instant, on va s'approcher un peu de la bête. On va voir vraiment à quoi ça ressemble, un loup. Comment ça fonctionne? Comment ça vit?
Mais par exemple, est-ce que c'est pas tout simplement un chien méchant?
Moi, je crois pas.
On verra. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
À l'occasion de la sortie du nouveau film de Jean-Jacques Hano, Le Dernier Loup, film RTL qui sort en salle demain, on part à la rencontre de ces mammifères à crocs, hein, plutôt longs crocs d'ailleurs, avec Pierre Rigaud, naturaliste. Vous nous avez expliqué qu'il fallait tout faire pour que la cohabitation se passe le mieux possible entre les moutons, les éleveurs et les loups, et que localement, pour les éleveurs qui sont confrontés à un loup prédateur, hein, qui veut manger des brebis, ben, on comprend qu'il puisse être énervé et on comprend que ce soit conflictuel. Mais pour autant, est-ce qu'il faut les faire disparaître comme dans les années 30? Non, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Tiens, d'abord, question toute bête, c'est quelle espèce de loup en France? Est-ce que c'est une espèce bien répertoriée? Est-ce qu'il n'y en a qu'une ou est-ce qu'il y en a plusieurs?
C'est la même espèce de loup qui est présente dans tout l'hémisphère nord, que ce soit en Amérique, en Asie, en France. C'est Canis lupus, donc c'est son nom scientifique. Après,
ça veut dire le chien...
Ça veut dire.
Je me lance dans une traduction.
Alors, comment dire que mon latin est très lointain?
Merci les gars.
Ça veut dire chien loup, quoi, c'est ça, donc Canis lupus.
Je ne connais pas l'étymologie exacte. Ce qui est sûr, c'est que
si vous avez l'étymologie, appelez-nous au 3210, Diane vous attend.
Bonne question, Nicole. Alors, en fait, bon, Canis lupus, c'est le loup qui est présent partout dans le monde. Après, il y a des formes différentes. Le loup qui est présent en France, on l'appelle le loup italien parce qu'il est issu des populations d'Italie. Mais. Celui, par exemple, qu'on va voir dans le film de Jean-Jacques Hano, bon, c'est des loups domestiques qui ont été utilisés, mais le loup qui est présent de façon naturelle en Asie centrale, il est un petit peu différent morphologiquement. Mais tout ça, c'est le même loup, c'est Canis lupus.
Est-ce qu'il y a des loups, des races, des espèces de loups beaucoup plus grandes que le nôtre?
Oui, alors
c'est pas le plus impressionnant sur Terre, c'est ça?
Ben non, notre loup entre guillemets, c'est vrai qu'on a toujours dans l'image, on entend dire des gens, j'ai vu un bestiau, il était vraiment grand, je suis sûr que c'était un loup parce qu'il était plus grand qu'un chien. Mais non, les loups en France, ils pèsent une trentaine de kilos, donc c'est comme un labrador, un berger allemand, c'est-à-dire un chien pas non plus tout petit, mais un chien de taille moyenne, quoi. Il y a des loups, par exemple au Canada, ils sont plus grands, et les plus grands loups sont les loups arctiques. Ils pèsent quasiment deux fois plus lourd que les loups. D'Europe de l'Ouest.
Alors notre loup à nous en France, le Canis lupus, c'est ça? Quelles sont ses caractéristiques? Il est par rapport à un chien, parce qu'on va prendre le voilà un chien. Il a une grosse plus grosse mâchoire. On imagine qu'il a plus de crocs.
Il n'a pas plus de crocs.
Il est plus grand, qu'il a des grandes jambes pour courir vite. Où j'ai lu beaucoup de contes.
Le petit chaperon rouge, on vous l'a lu très tôt, c'est ça? Ça vous irait bien.
En fait, les loups qu'on trouve en France, ils ressemblent. Si on peut prendre un exemple facile, ils ressemblent à un berger allemand, grosso modo, à peu près la même taille. Avec des oreilles pointues, mais un petit peu moins pointues, un petit peu plus petites que celles du berger allemand. Il a l'air, notre loup, d'être un petit peu haut sur pattes, avec des couleurs brun, gris, des zones un peu plus claires, un peu plus foncées. Et puis sur la tête, il a le dessous de la tête et les joues un petit peu blanchâtres. Il a des couleurs assez passe-partout, en fait, somme toute. Il n'a pas une allure plus extraordinaire qu'un chien de la même taille, en fait.
Pierre Rigaud, vous les observez, vous êtes naturaliste. Vous les voyez? Ils sont beaux, les loups?
Les loups sont beaux, mais je dois vous dire qu'on les voit quasiment jamais, parce qu'ils se laissent désirer, ils se cachent, les loups, parce qu'ils ont peur de l'homme. Donc en fait, on a des moyens indirects pour essayer de les suivre. Souvent, on voit beaucoup plus facilement, même si c'est pas facile non plus, leurs traces, notamment en hiver, leurs traces dans la neige. Mm-hmm. Avec beaucoup de chance, on peut arriver à les entendre. C'est assez émouvant.
Qu'est-ce que vous entendez ?
Les hurlements des loups.
C'est étonnant ou c'est glaçant, Pierre Rigaud ?
C'est bien un loup, là, qu'on a entendu.
Non, c'est une chouette, ça, André Fassetta. Faut revoir vos bruitages. Ça va pas du tout. On n'aime pas peur.
C'est un loup un peu gore, là.
C'est un loup un peu gore, c'est un loup de cinéma. Il a été trafiqué, c'est ça, oui, c'est possible.
Il a été auto-tuné.
Vous savez reconnaître un jeune loup d'un loup adulte, par exemple, dans sa façon de hurler?
Ouais, alors les jeunes loups, ils hurlent de façon moins parfaite, ils ont plus tendance à japper. Mais le hurlement d'un loup, c'est quelque chose qui est vrai, qui est assez émouvant. Non seulement ça donne des informations, parce qu'on peut savoir, sans aller jusqu'à les observer visuellement, on peut arriver à savoir s'il y a des jeunes, par exemple, ou des adultes. Donc si, par exemple, une meute a pu se reproduire, on va sur la colline d'en face, on écoute en fin d'été le hurlement des loups, au loin. Et puis, non seulement ça donne des infos, puis c'est quand même très, très émouvant.
Dans cette émission, on reçoit souvent des aventuriers et on avait reçu un aventurier qui voulait absolument trouver un animal mythique en Afrique qui s'appelle le Mokele Membe. Bon, et c'est une espèce de dragon qui, dans la mythologie africaine, là aussi, dans la transmission orale, ça se transmet de génération en génération. Et il utilisait, pour essayer de trouver ce Mokele Membe, des appareils photos qui se déclenchait automatiquement quand un animal passait en face de lui. Est-ce que vous utilisez ça pour voir les loups, vous aussi?
Voilà, c'est ce qui est utilisé. Ça marche de plus en plus. Il y a pas mal de gens qui utilisent ces petits appareils. On appelle ça des pièges photographiques ou des pièges vidéo. C'est simplement des appareils automatiques qu'on positionne à un endroit où on suppose que vont passer des loups, on espère que vont passer des loups. Donc, faut faire un petit peu de repérage. On voit passer plein de choses sur les appareils. Puis tout d'un coup, on est content parce que, à un moment donné, il y a un loup sur la photo, sur la vidéo. Donc c'est un moyen très 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 pratique, en fait, de voir indirectement les loups qui, encore une fois, ne veulent pas se laisser voir, quoi.
Je me pose une question, on va y répondre dans un instant. C'est: est-ce qu'on peut domestiquer un loup? La réponse tout de suite sur RTL dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
Curiosité est un vilain défaut.
Le loup, c'est pas un animal solitaire, hein, c'est un animal qui vit en groupe. Le groupe, c'est ce qu'on appelle le clan ou la meute. Et c'est très hiérarchisé puisqu'il y a des dominants et des dominés.
Chantons le loup, le renard et la belette. Chantons le loup et le renard, chantez.
Chez les loups, on ne plaisante pas avec la hiérarchie.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On est curieux ce soir, mais on est surtout courageux. On s'approche des loups avec le naturaliste Pierre Rigaud. Tiens, le film de Jean-Jacques Hano qui sort demain sur nos écrans, un film RTL, Le Dernier Loup, se passe en 1969. On est en pleine révolution culturelle, la révolution culturelle lancée par Mao Zedong, bien sûr. Un étudiant de Pékin est envoyé instruire une tribu de bergers nomades en Mongolie et il est fasciné par les loups. Il va capturer un louveteau, l'apprivoiser en secret jusqu'au jour où...
Oui, je l'avoue, c'est moi. C'est moi qui l'élève.
Ils entendent les appels de leurs petits et viennent leur prendre. Les loups sont partout, ils rôdent autour du camp.
Réfléchis un peu, laisse-le partir.
J'en ai assez. C'est moi qui le nourris et c'est moi qui l'aime.
T'as capturé un dieu pour en faire ton esclave. Tu le feras un jour.
Pierre Rigaud, on entend tu as capturé un dieu pour en faire ton esclave. C'est ça un loup, c'est un dieu, on peut pas le domestiquer comme un chien?
Ah, c'est pas une question. Moi, je suis naturaliste, donc j'ai pas. J'essaie de pas parler de façon sacrée. Ou pour moi, le loup, c'est pas quelque chose de sacré. C'est un animal qui est fascinant à étudier en tant qu'animal, biologiquement. Les dieux, les mythes, c'est pas mon domaine en fait. Après,
en revanche, est-ce qu'il est effectivement difficile à domestiquer, le loup?
Alors non, les loups peuvent techniquement se domestiquer parce que les louveteaux, ça fonctionne par imprégnation. Autrement dit, les premiers individus qu'ils vont rencontrer, ça va être leur meute. Donc si c'est des loups, ça va être une meute de loups. Si c'est des humains, ils vont un louveteau pourra vivre avec des humains. Mais il y a des expériences qui sont pas forcément très heureuses qui ont déjà eu lieu. En fait, si vous avez envie de domestiquer un loup, je vous dis tout de suite, abandonnez l'idée, prenez un chien. Parce qu'en plus, il se trouve que le loup est en France une espèce strictement protégée, donc on n'a pas le droit de domestiquer un loup. Il faut des autorisations très très particulières que très peu de gens ont pour des raisons très très précises. Donc, oubliez l'idée de domestiquer un loup.
Et puis, c'est pas un bon compagnon.
Non, les chiens, c'est mieux.
On va parler de l'organisation sociale des loups parce que ça, c'est fascinant, la meute. Mais d'abord, deux questions qui se rejoignent d'auditeurs d'RTL au 3210. Philippe, qui nous appelle depuis le Val-de-Marne, c'est Diane qui a pris son appel. Il faut ajouter qu'il y a beaucoup de chasseurs qui chassent les lapins et autres animaux qui sont le gibier des loups. C'est pour cela qu'ils se rabattent sur les agneaux et moutons. Et ça rejoint ce que demande Didier, qui nous appelle de l'Ain. Que mange le loup s'il n'y a pas de mouton? C'est quoi le repas du loup?
Le repas du loup. Le loup, c'est un prédateur, c'est un carnivore. Donc, il mange ce qu'il trouve. Il est assez opportuniste, mais essentiellement, ce sont des grands herbivores. Donc, c'est des chevreuils, des chamois, des cerfs, des sangliers. Ça, c'est sa nourriture quotidienne. En tout cas, pour l'Europe de l'Ouest. Si c'est au Canada, ça peut être des élans, ça peut être des rennes. En Laponie, bon, il mange des moutons quand c'est plus facile pour lui à attraper que les proies naturelles.
Mais ça peut être lié à la chasse? Ce que demandait Philippe.
Il est certain que s'il y a une forte pression de chasse et qu'il y a peu d'ongulés à cause de trop de chasse, les loups vont probablement avoir plus tendance à se tourner vers les moutons. Mais le facteur essentiel, c'est quand même la protection des moutons.
Les ongulés, Pierre Rigaud, c'est les bêtes à sabots, c'est ça?
C'est ça.
C'est eux.
Je note sur ma liste de courses. Trois ongulés.
Ouais, c'est un peu difficile à cuisiner, hein, quand même. Enfin, faut retirer les ongles.
Merci à Philippe et à Didier pour ces questions. 32-10, Diane attend vos appels.
On parlait de la meute. Une meute, c'est quoi? C'est en gros la famille, la petite famille du loup.
C'est
papa, maman, les enfants.
C'est ça. Une meute, en fait, c'est tout simplement une famille. Au départ, ça peut être seulement deux individus, un mâle, une femelle. C'est la meute de base, si on peut dire.
Le patron, c'est qui le patron de la meute?
Il y a un mâle dominant et une femelle dominante. Donc c'est le couple dominant, ça marche comme ça.
Ah, c'est paritaire, bravo.
Voilà.
Enfin, comme sur RTL entre 20h et 22h.
Enfin, il a dit enfin, Pierre Rigaud.
Ah, alors ah bon. Donc c'est plutôt le mâle qui domine, c'est
non,
ça
non,
en fait
non. Ce que je voulais dire.
Pas du tout, c'est plutôt la femme comme dans tous les cas.
Ah, vous avez mis du temps à réagir. Allez-y.
Non, je voulais dire, enfin, il y a un couple dominant par rapport aux autres individus de la meute. En fait, une meute, c'est vraiment une famille qui peut être une famille simple, ou après, quand il y a des louveteaux, et puis éventuellement d'autres individus qui rejoignent la meute, bah, c'est une famille élargie. S'il y a des pièces rapportées dans la famille, c'est une famille rapportée.
Et elle a un territoire, cette meute, un territoire qu'elle décide, qu'elle cerne?
Elle a un territoire qui est très très grand parce qu'ils ont besoin de trouver des proies, ces fameux ongulés, les fameux chevreuils, chamois, cerfs. Donc ils ont besoin d'avoir de l'espace. Et le territoire d'une meute de loups en France, c'est au moins 200 voire 300 km². Donc c'est très très grand. Et il y a même des endroits dans le monde, dans la toundra arctique, où ça peut être 2000 voire 2500 km². Donc c'est immense.
Mais comment ils s'y repèrent, les loups, dans ces 200 km² de territoire?
Ils le parcourent, ils se baladent, ils passent leur temps. En toute discrétion et sans quasiment jamais se faire voir par nous les humains, à parcourir leur territoire.
Donc faut imaginer. Ils le marquent ?
Ils le marquent, ouais.
Comment ?
Avec des crottes, avec de l'urine, qui pour nous est pas grand-chose si ce n'est visuel, mais pour un autre loup est une information olfactive. Et puis aussi les hurlements servent à matérialiser leur territoire d'une façon auditive. Quand ils hurlent, quand une meute hurle.
Ça c'est bon. Ça, c'est
on est cerné.
Là vous reconnaissez les loups des Hautes-Alpes, c'est ça ?
C'est ça. Quand il y a un hurlement d'une meute, elle se signale à la meute voisine. Quand je dis voisine, c'est à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres.
Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir deux meutes sur un même territoire de 200 km².
Il ne peut pas y avoir deux meutes parce que ce sont des animaux très territoriaux. Donc chaque meute défend son territoire. Et si on prend par exemple le sud-est de la France ou un paysage en France, il faut imaginer une vallée avec plusieurs villages d'humains, éventuellement une ville, un massif, une forêt. Tout ça, c'est le territoire d'une meute de loups, de 4-5 loups qui chaque jour, chaque nuit plutôt, parcourent une partie de ce territoire. Ça déplace beaucoup.
J'ai eu la réponse à ma question, c'est Gérald de Savoie. J'ai vérifié dans un dictionnaire, merci Gérald.
Merci Gérald.
Canis lupus vient effectivement de chien-loup. Et bah à trois, on était pas mal.
On y est arrivé, on n'est pas si mauvais. Hein.
On n'aurait peut-être pas eu le bac de latin, mais bon.
En tout cas, on a trouvé la réponse.
C'est pas mal.
Allez, à l'occasion de la sortie du nouveau film de Jean-Jacques Hano, Le Dernier Loup, c'est un film RTL à voir à partir de demain en salle. On part à la rencontre de cet animal qui inspire la crainte, forcément, mais aussi pas mal de passion. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
Et ce soir sur RTL, on vous emmène au cœur d'une meute de loups. Voilà, imaginez-vous, vous êtes dans la montagne et vous avez la chance de pouvoir les observer. La chance parce que notre invité Pierre Rigaud, qui est naturaliste et qui travaille sur les loups depuis plusieurs années, nous disait que c'était très difficile de les voir. Ils se cachent, ils ont peur des hommes, alors que depuis des siècles et des siècles, ce sont les hommes qui avons peur des loups. Donc c'est un peu le monde à l'envers, si on a bien compris Pierre Rigaud. On parlait de la meute. Est-ce qu'il y a des loups qui peuvent être exclus d'une meute? Ça arrive.
Oui, ça arrive. Et puis il y a surtout des loups qui, à un moment donné, cherchent à quitter la meute pour fonder une meute ailleurs, pour chercher un nouveau territoire. Et il y a des cas impressionnants de loups qui parcourent des centaines de kilomètres, parce que c'est le mode de colonisation du loup. C'est avec des individus pionniers qui s'éloignent de la meute. Alors ils partent à l'aventure parce qu'ils savent pas où ils vont. Ils partent dans un territoire forcément qu'ils connaissent pas. Ils savent pas s'ils vont trouver d'autres loups.
C'est ce qu'on appelle un loup solitaire.
Ouais, un loup solitaire, c'est un cas de loup solitaire. Alors qu'il part en dispersion, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Il y a un cas documenté d'un loup qui était originaire d'Allemagne et qui a été retrouvé en Biélorussie après avoir parcouru 1500 kilomètres quand même. Donc ça veut dire qu'ils partent, peut-être qu'ils vont passer des mois ou des années sans jamais croiser un congénère de la même espèce. En parenthèse, c'est quand même fou. Alors, évidemment, je sais pas ce qui se passe.
Et notamment une congénère pour fonder une nouvelle meute, c'est ça, si on a bien compris.
C'est tout l'enjeu pour le loup, si elle arrive à trouver un loup du sexe opposé. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe quand finalement il y a la rencontre a lieu, mais c'est la condition nécessaire pour qu'il y ait formation d'une nouvelle meute.
Et tiens, justement, question de Françoise qui nous appelle depuis la Haute-Garonne au 3210. Un loup peut-il s'accoupler avec une chienne?
Oui. Alors, les chiens sont issus de loups domestiqués il y a très longtemps, il y a plus de 15 000 ans, voire peut-être même 35 000 ans. Donc ça fait partie de la même espèce. Donc techniquement, un loup peut s'accoupler avec un chien et donner naissance à un individu fertile. Dans la nature, ça arrive peu, parce qu'évidemment, les loups restent entre eux, les chiens restent entre eux. Ça peut arriver quand il y a des chiens divagants qui vont aller au contact des loups.
Mais Françoise, arrêtez tout de suite les expériences.
Laissez-les
tranquilles.
Ne domestiquez pas les loups, c'est ce que Pierre Rigaud nous a dit tout à l'heure. Mais attendez, je cherche à comprendre, parce que vous nous avez décrit là un loup qui part d'Allemagne, qui fait 1500 bornes pour arriver en Biélorussie, parce qu'il n'a pas trouvé de femelle compatible.
C'est ça, j'ai
bien compris.
C'est ça, alors soit femelle.
Donc il s'est pas arrêté parce qu'il y avait une chienne sur son passage.
Non, parce qu'il ne suffit pas de trouver la chienne ou la louve.
Moi je suis basique. C'est Denis Bonnet qui est effondré si vous regardez sur RTL.fr. Allez-y Pierre.
Il faut aussi qu'il trouve un territoire qui lui convient avec des proies, avec pas trop d'humains, d'accord, etc. Donc il y a aussi ce facteur qui rentre en jeu. Mais toujours est-il que la probabilité quand même de rencontrer effectivement une louve pour un loup qui part à l'aventure comme ça, elle est très très faible. Et c'est pour ça que finalement, tout d'un coup quand ça arrive, on se rend compte que il y a une nouvelle meute qui est apparue. Par exemple, dans le Massif central, il y a des loups qui se sont installés, mais qui sont pas directement proches de ceux qui sont présents dans l'arc alpin. Et ça a mis finalement beaucoup d'années avant qu'il y ait la probabilité pour que plusieurs loups se rencontrent, se trouvent là et s'installent.
Combien de louveteaux, une louve et un loup peuvent-ils avoir dans une vie?
Alors en général, il y a chaque louve, si tout se passe bien, elle peut mettre qu'une seule portée par an, 2, 3, 4, 5 petits louveteaux, voire plus, mais en France c'est plutôt ça. Une fois par an quand ils arrivent à se reproduire, ça arrive pas tous les ans pour toutes les meutes. Et ces louveteaux sont élevés d'abord par la louve toute seule, qui empêche théoriquement l'intrusion dans la tanière, puis ça se passe dans une tanière des autres loups, elle protège ses petits.
On retrouve toutes les expressions d'ailleurs, une louve. Une mère louve.
Ouais.
C'est ça, un animal qui protège, ou une femme qui protège son petit.
C'est ça. Et alors, les loups, d'ailleurs, ils sont tout à fait fragiles. Et quand ils naissent, ils pèsent 500 grammes, ils sont aveugles. Au bout du 12e, 13e jour, ils ouvrent les yeux. Puis après, il faut encore attendre un petit peu de temps pour qu'ils sortent de la tanière et qu'ils découvrent les autres loups, les autres membres de la meute. Et au départ, c'est la femelle toute seule qui protège ses louveteaux dans la tanière. C'est ce qui a été décrit, parce qu'évidemment, on le voit pas tous les jours, ça. Donc, c'est ce qui a été décrit, notamment en captivité, puis aussi par certaines études en Amérique du Nord, surtout.
Pendant combien de temps les louveteaux sont en danger? face à des prédateurs? À partir de quel âge ils sont autonomes et ils n'ont plus besoin d'être protégés par la mère louve ou par la meute?
Pendant plusieurs mois, ils sont encore petits, ados, donc ils sont susceptibles d'être en danger. Pourtant, ils sont quand même laissés seuls par la meute quand ils ont atteint l'âge de quelques mois. Et ils vont rester encore pendant au minimum 6 mois, voire 1 an avant d'être aguerri. Mais en fait, il y en a quand même 1 sur 2 qui passent pas l'hiver, parce que la vie du loup, c'est pas facile. Et les louveteaux, c'est pas gagné d'avance qu'ils atteignent l'âge adulte.
1 sur 2 qui passent pas l'hiver.
Ouais.
Ah oui. Quand les louveteaux grandissent, après ils vont chasser avec papa loup et maman loup, c'est ça? Tout le monde chasse?
Tout le monde chasse. Les adultes chassent, et y compris les jeunes, quand ils ont atteint l'âge suffisant. Et c'est comme ça qu'ils apprennent.
Je vous écoute.
Non, je voulais juste dire que c'est comme ça qu'ils apprennent, parce que le loup, comme c'est un animal social, il a besoin d'apprendre. Les louveteaux ont besoin d'apprendre la vie, en fait, au contact des autres loups.
Est-ce que ils ont une technique pour tuer, justement, qui s'enseigne des parents aux petits louveteaux?
Alors, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le comportement du loup, et on se rend compte que le comportement, en fait, de mettre à mort, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est un prédateur, donc il mange ses proies, il les capture, il les attrape, et puis il les met à mort pour se nourrir, c'est comme n'importe quel prédateur. Et cette séquence-là, cette action-là, elle est assez innée. Le loup va tuer de façon assez instinctive pour se nourrir. Par contre, arriver à capturer l'animal, arriver à repérer ses proies, arriver à organiser la chasse, ça c'est quelque chose qui, semble-t-il, s'apprend.
Et ça se fait, c'est-à-dire qu'il chasse en meute?
Ouais.
Et il y a quoi? Il y a un rabatteur, il coince la proie, comment ça se passe? Parce qu'on a l'image, évidemment, alors là je vais ressortir tous les clichés, hein, on a l'image d'une meute de loups qui en cercle s'approche de sa cible. Est-ce qu'il fonctionne effectivement comme ça?
Alors il fonctionne de ce qu'on arrive à en savoir, parce que c'est pas facile. Mm-hmm. Il fonctionne d'une façon qui n'est pas si coordonnée que ça, semble-t-il, mais en plus souvent ça rate, ils n'arrivent pas à capturer leur proie. Il n'y a pas forcément toujours un rabatteur, quelque chose de très organisé. Mais en tout cas, le nombre fait qu'il y a des individus qui maîtrisent mieux la chasse, en fait, la technique, et la stratégie plutôt, et les plus jeunes qui apprennent, donc qui sont moins performants. C'est plutôt ça l'intérêt de la chasse en meute, en fait. Apprendre aux petits et puis être plus nombreux pour arriver à encercler à la fin l'animal quand il y a besoin d'être nombreux, quand il s'agit d'un grand mammifère.
Et pour voir les loups de près, vous nous conseillez un site internet qu'on va mettre sur le site d'RTL.fr, c'est cap-du-milieu-loup.fr. Merci infiniment. Pierre Higaud, vous irez voir demain le film de Jean-Jacques Hano, Le Dernier Loup?
J'irai voir, merci. Ouais.
Merci Pierre Higaud.
Merci.
Ben voilà, c'est un film RTL qui sort demain.
Vous écoutez RTL.